Bonjour à chacun. Alors peut-être que comme beaucoup de chrétiens, vous vous êtes dit un jour qu'il aurait été merveilleux de vivre en Palestine aux côtés de Jésus. Merveilleux de le côtoyer au quotidien. Merveilleux d'être son disciple alors qu'il était présent en chair et en os. Imaginez un instant ce que cela aurait été de voir Jésus en vrai, de pouvoir peut-être le toucher, de pouvoir entendre son enseignement en direct, de le voir accomplir des miracles, de le voir faire le bien. Est-ce que cela vous aurait plu? Est-ce que cela n'aurait pas été merveilleux? Pour beaucoup, ça serait le top du top, le summum, l'expérience suprême. Et pourtant, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, que la venue de l'Esprit-Saint serait meilleure pour ses disciples que sa présence physique. Jésus a dit que la venue de l'Esprit-Saint serait meilleure pour ses disciples que sa présence physique. Si, j'invente pas. Jean chapitre 16, verset 7, « Cependant, moi, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Quelle parole surprenante. Quand nous nous arrêtons quelques instants pour y réfléchir. Peut-on imaginer mieux pour notre foi que la présence physique de Jésus? Nous pensons peut-être non. Et Jésus dit oui. Oui, il y a mieux que sa présence physique. Oui, il était avantageux pour les disciples de Jésus qu'il s'en aille afin de pouvoir leur envoyer le Saint-Esprit. Et j'aimerais en ce dimanche de Pentecôte, vous le savez, quand l'Esprit-Saint a été donné à l'Église, j'aimerais que nous réfléchissions à cette parole surprenante de Jésus en nous posant la question suivante. Pourquoi était-il avantageux pour nous, si nous sommes disciples de Jésus, que Jésus quitte physiquement cette terre? Il est évident dans le propos de Jésus que l'avantage concerne la venue de l'Esprit-Saint. L'Esprit qui n'avait pas encore été donné. C'est Jésus qui le dit dans Jean au chapitre 7, verset 39, et l'Esprit-Saint qui sera donné à la Pentecôte tel que nous pouvons le lire dans le chapitre 2 du livre des Actes. Alors que Jésus prépare ses disciples à son départ qui approche, il leur fait une promesse. Il leur promet le don de l'Esprit. Un don qui ne sera possible que s'il s'en va. Un don pour lequel il doit retourner auprès de son Père dans la gloire. Un don qui ne pourra donc avoir lieu qu'après son ascension, c'est-à-dire après que le salut ait été accompli, après sa mort et après sa résurrection. Alors le Père et le Fils enverront le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26, « Mais c'est le défenseur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom et qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean 16, verset 7, que nous avons déjà lu, où Jésus dit à la fin, « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je n'entre pas ici dans la controverse dite du filioque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Filioque, ça veut dire en latin « et du fils ». Et du fils. Et qui a fini cette controverse par diviser l'Église. C'est ce qu'on appelle le schisme d'Orient en 1054. D'un côté, le christianisme occidental, le catholicisme romain, et puis de l'autre, toutes les branches du christianisme orthodoxe. Et la question à l'époque, dans laquelle je ne rentre pas, était de savoir de qui procédait l'Esprit Saint à la Pentecôte. Est-ce qu'il est du Père seulement, ou alors est-ce qu'il est du Père et du Fils à la fois ? Peut-être que vous pensez que c'est une petite question, mais en tout cas, elle a eu de grands effets. Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça, et il y avait surtout une question politique de soumission ou pas au pape. Toujours est-il que cette question est devenue le prétexte qui a amené à cette division qui existe encore aujourd'hui entre le christianisme occidental et le christianisme oriental. Je referme la parenthèse. Le départ physique de Jésus aura donc une conséquence bénéfique pour les disciples, meilleure que la présence physique de Jésus, la venue de l'Esprit-Saint. Et c'est cette venue, dit Jésus, qui est avantageuse pour eux, et donc pour nous aussi, si nous sommes disciples du Seigneur. Avantageuse en quoi ? C'est ce que je vous propose de considérer au travers de 4 points. En quoi la venue de l'Esprit était-elle avantageuse pour les disciples ? Premièrement, car par l'Esprit, nous sommes avec Jésus pour toujours. Nous pourrions aussi dire, car par l'Esprit, sa présence nous est éternelle. Jean 14, verset 15 à 17, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. » Et qu'il sera en vous. Le départ physique de Jésus est pour le croyant la proximité de l'Esprit de Dieu, qui est aussi la proximité de Jésus. Peut-être que vous avez déjà remarqué qu'après l'ascension, le Saint-Esprit est aussi appelé dans la Bible, parfois, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ et même l'Esprit de son Fils. Galates 4, verset 6, par exemple, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est la raison pour laquelle Jésus pourra dire, en quittant ses disciples, à la fin de l'évangile de Matthieu, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, par l'Esprit qui nous a été donné, par son Esprit qui nous a été donné. Ce don de l'Esprit n'est pas juste en nous, ce qui est déjà beaucoup. Et c'est un vrai plus par rapport à la présence physique de Jésus qui était à côté. Mais c'est en nous de façon permanente et éternelle. Dans Matthieu 28, Jésus dit « Avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et puis dans Jean 14, verset 16, il est dit « Avec vous pour toujours ». Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était parfois donné à quelques croyants pour accomplir une tâche spécifique. Mais il pouvait aussi être retiré, lui être retiré. Il était donné, mais parfois il était retiré. C'est le cas pour Saül, c'est le cas pour Samson. Et dans le psaume 51, le psaume que David écrit après son adultère avec Bathsheba, il évoque cette possibilité. Psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, depuis la première Pentecôte, l'Esprit est donné aux croyants de façon permanente. Nous pouvons parfois attrister le Saint-Esprit par notre péché, mais le Saint-Esprit ne se retire pas de notre cœur. Il ne nous est pas retiré. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, dit Jésus. Oui, le départ de Jésus et le don de l'Esprit était avantageux pour les disciples de Jésus, car avec la venue de l'Esprit, c'est la présence de Jésus en nous et pour toujours. En nous et pas seulement avec nous. La présence physique de Jésus devait être extraordinaire, merveilleuse, unique, irremplaçable. Mais elle souffrait des limites de l'incarnation. Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il ne pouvait être entouré que de quelques personnes à la fois, avec quelques personnes en un lieu donné. Alors qu'après la Pentecôte, par son esprit, il est en chacun de ses disciples, où qu'ils soient, et quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent, en tous, partout, en tout temps et en même temps. Est-ce que ça, c'est pas un avantage ? Oui, la présence de Jésus par l'Esprit Saint est maintenant le privilège et le partage de tous les disciples, et pas juste d'une poignée, pas juste dans un endroit géographique précis, à un moment donné, et pour ce qui est du ministère de Jésus, pendant quelques années seulement. Le don de l'Esprit a aboli toutes les limites de la présence physique de Jésus. Et pour connaître la présence de Jésus, je n'ai pas besoin d'être téléporté au 1er siècle, ou avoir vécu en Palestine au 1er siècle. Je n'ai pas besoin, si j'avais été là, de jouer des coudes dans la foule pour m'approcher de lui. Par la foi en Jésus, quiconque croit reçoit l'Esprit Saint qui est aussi l'Esprit du Fils. Oui, il était avantageux que Jésus s'en aille pour que nous puissions tous recevoir son Esprit. Son Esprit qui vient faire sa demeure en celle et celui qui croit en Jésus. Son Esprit qui fait de chaque disciple son temple. Il y aurait plusieurs textes à citer ici. J'en cite un qui est moins connu, 2 Timothée 1,14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » En fait, le départ de Jésus, le départ physique de Jésus, ne veut pas dire moins de Jésus pour le croyant, mais veut dire plus de Jésus pour le croyant. Quel avantage! En quittant ses disciples pour rejoindre son Père, Jésus ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas laissés seuls. Il dit d'ailleurs, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Je viendrai ou je viens à vous. Non, le départ de Jésus ne veut pas dire moins de Jésus, mais plus de Jésus. Car par le Saint-Esprit, sa présence en nous est éternelle. Par l'Esprit, nous sommes avec Jésus tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça bouscule peut-être un peu la façon de voir les choses, hein. On n'a pas trop l'habitude de parler de cette présence-là, de cette manière. En quoi la venue de l'Esprit était-elle avantageuse pour les disciples ? Deuxièmement, car par l'Esprit, nous sommes transformés. La présence physique de Jésus, je l'ai dit, devait être impressionnante, stimulante, bienfaisante et tout ce que vous voulez de positif, très certainement. Mais la présence physique de Jésus ne transformait personne. Ce qui transforme véritablement une personne, c'est l'œuvre de l'Esprit en lui. La première transformation que fait le Saint-Esprit en nous, c'est la régénération. C'est ce qu'on appelle la régénération. C'est la première œuvre de l'Esprit dans une vie. Tout commence par la régénération. D'un point de vue spirituel, vous le savez, l'âme du pécheur est morte, coupée de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et la régénération, c'est le miracle par lequel cette âme est instantanément éveillée à la vie de Dieu, à la vie spirituelle. C'est l'implantation d'une vie nouvelle en nous qui initie tout le processus qui va amener à la conversion, qui nous fait passer de la mort à la vie, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, qui fait de nous de nouvelles créatures, qui nous fait naître de nouveau. C'est le renversement de ce que nous sommes en Adam. Alors notre conscience de la régénération, elle peut venir progressivement, mais l'acte lui-même, accompli par le Saint-Esprit, est instantané. Personne n'est à demi régénéré ou à demi né de nouveau. On est soit mort dans nos péchés, soit vivant avec le Christ. Il n'y a pas de position intermédiaire. Concernant le moment où se produit la régénération, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens que c'est lorsque nous étions morts à cause de nos fautes que Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Mais Dieu, qui est riche en dons, en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Ça, c'est la régénération. Et chronologiquement, puisqu'on y est, la régénération précède la foi. Alors, je jette plusieurs pavés dans la mare ce matin. Je sens que l'étude biblique de mercredi sera riche et intéressante. Chronologiquement, la régénération précède la foi. Et elle produit toujours la foi, ainsi que la conviction de péché qui mène toujours à la repentance. Je parle ici de l'œuvre de l'Esprit, bien sûr. Et nous disons les théologiens disent que cette œuvre de l'Esprit est efficace. C'est-à-dire qu'elle accomplit toujours son but. Un exemple de cela, dans Romains 8, verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Chaque action de Dieu par son esprit entraîne la suivante. Avec la régénération, Dieu pose la première pierre d'une œuvre qu'il achèvera et rendra parfaite au jour de Jésus-Christ, de la prédestination à la glorification. Et il faut cette œuvre initiale de l'Esprit en moi pour que je puisse répondre par la foi qui est un don de Dieu. Il me semble être important d'être clair, ou en tout cas le plus clair possible là-dessus. Nous ne coopérons pas dans la grâce régénératrice. Tout simplement parce que notre état de mort spirituelle, à ce moment-là, ne nous permet pas de coopérer. Nous sommes morts. Et les morts, par définition, ça ne fait rien du tout. Il n'est pas question que nous assistions le Saint-Esprit dans l'éveil de notre âme, tout comme il n'était pas possible à Lazare d'aider Jésus lors de sa ressuscitation. La régénération est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. Et Jésus dira à peu près la même chose avec d'autres mots à Nicodème, on connaît bien ce passage. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Alors il est vrai qu'il existe au niveau de la terminologie utilisée pour parler de ce que l'esprit fait avant la conversion, il existe une certaine confusion. Et l'amalgame qui est souvent fait est entre la régénération et la conversion, ou alors entre la nouvelle naissance et la conversion. Alors tout n'est pas forcément faux, ça va dépendre de la définition qu'on donne à chacun de ces termes. Néanmoins, il me semble judicieux de faire les distinctions suivantes. La nouvelle naissance, dans les termes de Jésus à Nicodème, c'est être né de l'Esprit. Or ça, c'est la régénération. Et la conversion suit la régénération. La conversion qui correspond à la repentance, qui émane de la conviction de péché que l'Esprit produit en moi, et qui correspond aussi à la mise en œuvre de la foi que Dieu m'a donnée. La vie nouvelle reçue de Dieu ne commence donc pas à la conversion, mais bien à la régénération, avec la réception de l'Esprit. J'entends toutes vos questions, j'entends. Alors il est vrai qu'il arrive parfois que les opérations, les actions du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un se fassent un peu tout au même temps. Et alors ça vient peut-être ajouter à cette confusion et à cet amalgame. Et puis parfois, ça prend un peu plus de temps et on peut peut-être un petit peu mieux voir les différentes étapes. La deuxième transformation, ça c'était la première transformation apportée par l'Esprit, la régénération que la présence physique de Jésus ne pouvait pas apporter. La deuxième transformation opérée par le Saint-Esprit, c'est la sanctification. On en parle un peu plus. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Bible parle du Saint-Esprit et pas du Saint-Père ou du Saint-Fils. Le Saint attire notre attention sur la spécificité de l'action de l'Esprit dans le plan du salut. Le Saint-Esprit est celui qui sanctifie. Celui qui nous sanctifie parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est saint et que sa volonté, c'est que nous le soyons aussi. Un auteur très connu outre-Atlantique et qui est décédé en 2017, R.C. Sproul, que j'appréciais particulièrement, dit ceci. « Dans le salut, nous ne sommes pas seulement sauvés du péché et de la damnation, de la condamnation, nous sommes sauvés pour la sainteté. Le but de la rédemption est la sainteté. » Révéler Christ est un processus qui commence avant la conversion et qui va se poursuivre tout au long de notre vie chrétienne. Et le former en nous, il y a révéler Christ et puis le former en nous, ça, c'est la sanctification. De même que la naissance physique appelle à une vie de croissance, la naissance spirituelle, la nouvelle naissance, doit être suivie d'un développement. Et cette transformation, à l'image de Christ, former Christ en nous, c'est le Saint-Esprit qui l'opère et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Alors l'utilisation de ce mot un peu technique de sanctification m'amène à faire une précision qui est importante et qu'il est important d'intégrer pour bien comprendre tout ce que la Bible dit sur la sainteté et sur la sanctification. Il faut distinguer la sanctification du départ, que les théologiens appellent la sanctification de principe, et puis la sanctification qui a lieu tout au long de la vie chrétienne, et que les théologiens appellent la sanctification progressive. Et à ce sujet, un autre auteur, le petit livre est dans la bibliothèque de l'Église, l'Esprit du Dieu vivant, Léon Maurice, écrit ceci, « La sanctification peut donc désigner soit le fait d'être mis à part ou consacré pour Dieu, ça c'est au départ, soit le mûrissement des fruits de la grâce pour former un caractère chrétien, ça c'est former Christ en nous. » Dès l'instant que nous acceptons la grâce de Dieu, nous appartenons à Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes saints, parce que c'est le sens premier de ce mot, le sens de l'appartenance. Nous sommes mis à part pour Dieu. Et l'apôtre Paul, dans toutes les Écritures, nous avons des indices de cela. L'apôtre Paul aux Corinthiens, par exemple, écrit « Vous avez été sanctifiés ». Et si vous avez remarqué, toutes les lettres du Nouveau Testament sont écrites aux saints d'Éphèse, de Philippe, de Corinthe, etc. Et cet aspect de la sanctification, c'est donc cette sanctification de principe, c'est un événement ponctuel et définitif qui a lieu au moment où l'Esprit vient dans notre vie. L'enfant de Dieu est saint dès le commencement. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que d'un autre côté, nous sommes aussi appelés, par exemple, à rechercher la sanctification. Ça doit bien vouloir signifier autre chose. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés à devenir saints dans toute notre conduite, à être toujours davantage sanctifiés. Nous parlons ici de la sanctification progressive, qui correspond à la lutte dans ma vie contre le péché et qui correspond à la formation de Christ en moi. Avant la conversion, le Saint-Esprit œuvre tout seul. Nous l'avons vu, mort dans mes péchés, je ne peux pas assister le Saint-Esprit. Mais après la conversion, l'œuvre de sanctification devient une collaboration entre le Saint-Esprit et moi. Et Paul, pour dire cela, écrit aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, ça c'est notre part, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir, ça c'est la part de Dieu. » D'un côté, nous sommes appelés à travailler dur. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et puis d'un autre côté, nous avons la promesse que Dieu travaille conjointement. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Et il le fait par son esprit. La sanctification dite progressive, celle qui dure toute la vie chrétienne, est donc une coopération entre le Saint-Esprit et le chrétien. Revenons à notre question. En quoi la venue de l'Esprit était-elle avantageuse pour les disciples ? Parce que par l'Esprit, nous sommes transformés. Tout d'abord, nous passons de la mort à la vie, et puis nous sommes transformés progressivement à l'image de Christ par la sanctification. Chers amis, chers frères et sœurs, la présence de Jésus ne pouvait pas accomplir cela et n'accomplissait pas ces choses. Il fallait que Jésus s'en aille pour envoyer l'Esprit, bien sûr, après être mort et ressuscité, c'est ça le plus important. Il fallait qu'il ait accompli le salut, le sacrifice pour le salut, pour que ces choses puissent s'accomplir. Mais la réalité, c'est donc que le départ physique de Jésus est un véritable avantage pour le croyant. Un véritable avantage qui va amener les enfants de Dieu au jour de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Cette transformation de l'esprit par la sanctification a pour but de nous amener à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Alors, bien évidemment, à cause du péché, ici-bas, nous n'atteindrons jamais, ici-bas, cette perfection. Mais quand Jésus reviendra, ou alors quand il nous aura appelés à lui avant, ça a déjà été lu ce matin dans la première lettre de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté, mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » Et c'est cette réalité qui fait dire à l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Chers amis, il était vraiment avantageux pour nous que l'Esprit soit envoyé, parce que sa présence nous transforme à la ressemblance de Christ. En tout cas, ça sera le cas parfaitement au jour de Jésus-Christ, où cette œuvre bonne sera parfaitement achevée. Il y a beaucoup de matière ce matin. Merci de persévérer, on arrive au bout. Les deux derniers points sont beaucoup plus courts. Et je passe à la troisième réponse à notre question. En quoi la venue de l'Esprit était-elle avantageuse pour les disciples? Troisièmement, car par l'Esprit nous sommes équipés. Équipés pour vivre la vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle, équipés pour vivre à la hauteur de cette vocation que nous avons reçue, équipés pour servir le Seigneur. Et j'aimerais noter ici que c'est tout d'abord vrai dans un sens historique. Dans les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean, Jésus prépare, vous le savez, ses disciples parce qu'il va les quitter. Et il leur dit beaucoup de choses dans ce sens-là. Et il les prépare au fait que bientôt, il ne sera physiquement plus là avec eux. Et puis, il les prépare aussi à tout ce qui va venir. Il y aura de l'opposition, il y aura de la persécution, il y aura des défis à relever, il y aura des erreurs doctrinales à combattre, il y aura le Nouveau Testament à écrire, et j'en passe. Et que leur dit Jésus? Il leur dit qu'ils auront l'aide du Saint-Esprit pour cela. Le Saint-Esprit qui les accompagnera. Le mot paraclète est utilisé, je crois, 5 fois dans ces chapitres, traduit par défenseur, consolateur, de différentes manières. Littéralement, le paraclète, c'est celui qui marche à côté de l'autre pour l'aider, pour le défendre, le soutenir, l'encourager. Le Saint-Esprit donc les aidera en les accompagnant, il les aidera en les défendant, leur foi va être remise en cause, Ils vont être amenés devant les tribunaux, ils vont être jetés en prison, ils vont être battus, ils vont être persécutés. Lisez le début du livre des Actes. Le Saint-Esprit les aidera en les soutenant, en les réconfortant par sa présence, sa paix, sa joie. Il les enseignera et il leur rappellera tout ce que Jésus leur a dit quand il était physiquement avec eux. Et il les conduira dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité. J'aurais pu ici vous citer beaucoup de versets, mais j'ai pitié de vous et on avance. Et je vous encourage, si vous le souhaitez, à relire ces versets 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean. Vous verrez, les sections qui parlent du don du Saint-Esprit sont faciles à trouver. Et vous retrouverez toute cette aide que le Saint-Esprit va être pour les disciples quand Jésus sera parti. Et on peut se rappeler ici ce que les disciples étaient avant la Pentecôte, pendant que Jésus était avec eux, et un petit peu après qu'il les ait quittés. Mais si on relit les évangiles, mais ils sont très souvent mais complètement à côté de la plaque. Ils ne comprennent pas ce que Jésus fait, ils ne comprennent pas où il veut en venir. Ils comprennent de travers. Ils se querellent pour savoir qui sera le plus grand. Enfin, voilà, ils sont dans des considérations qui ne sont absolument pas celles que Jésus aurait voulu. Et puis après, ils ont peur, ils se cachent. Tout ça, c'est avant. Et puis, qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte ? Après la Pentecôte, nous les retrouvons pleins de courage, n'ayant plus peur, ne se cachant plus, annonçant clairement la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui vient d'être crucifié, n'ayant pas peur. Et ils se réjouissent même d'être maltraités à cause du nom de Jésus. Ils ont maintenant compris tout ce que Jésus voulait dire concernant sa mort et sa résurrection. La prédication de Pierre dans Actes 2 nous montre que ça y est, toutes les œillères sont tombées, il a compris. Il témoigne avec clarté et puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ont été transformés, complètement transformés. Et qu'est-ce qui les a transformés ? C'est la venue de l'Esprit-Saint. C'est la venue de l'Esprit-Saint qui fait la différence, qui les équipe, qui leur donne tout ce dont ils ont besoin pour accomplir la mission que Dieu leur a confié. Alors notre contexte est bien évidemment différent. Toute proportion gardée, bien sûr, nous sommes aussi équipés par l'Esprit pour pouvoir vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle, pour pouvoir le servir. Et qu'est-ce que cela induit ? Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Le Seigneur lui-même dit que, à cause de cette réalité, nous allons faire les mêmes œuvres que lui et encore de plus grandes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais et il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père. Ce qui rend ces œuvres plus grandes, c'est que le salut a été accompli. Le salut a été accompli quand Jésus retourne vers son Père. Les disciples, après la Pentecôte, seront les instruments d'un salut que Jésus ne pouvait pas offrir quand il était sur terre, puisque le salut n'était pas encore accompli. Il n'avait pas encore donné sa vie pour les pécheurs. Tout n'était pas accompli pour le salut. Il n'était pas mort, il n'était pas ressuscité et il n'était pas glorifié. Alors bien sûr, les disciples n'ont jamais accompli la plupart des miracles que Jésus a accomplis. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais ils se sont impliqués. Et nous sommes impliqués dans l'œuvre grandiose du salut, offert à quiconque croit. est rendu possible par l'œuvre parfaite de Jésus. Prenons un seul exemple. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la Pentecôte? À peine l'Esprit avait-il été donné. À peine Pierre avait-il fini la première prédication de l'Évangile. Jésus était retourné vers le Père et nous lisons « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, en ce jour-là environ 3000 personnes furent ajoutées. » 3000 personnes pour la première prédication de l'Évangile. Mais le salut venait d'être accompli. Le Saint-Esprit était descendu sur l'Église. Et Jésus était retourné vers le Père. Il en fera même de plus grandes encore. Et je crois, sans exclure les miracles, que les œuvres identiques à celles de Jésus, et même plus grandes encore, sont avant tout les œuvres du salut, qui sont maintenant possibles parce que le salut a été accompli, parce que la nouvelle alliance avec le Père a été parce que le royaume de Dieu est ouvert au monde entier, parce que le temps de l'accomplissement a enfin succédé au temps de l'attente et de la préparation. Alors oui, Jésus a fait de grandes choses, bien évidemment, quand il était sur terre. Il a fait des prodiges inégalés, mais il n'a pas fait ce que les disciples vont faire ensuite. Il ne pouvait pas. Ses disciples sont plus nombreux. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ils iront plus loin, ils agiront pendant plus longtemps, ça fait 2000 ans, et ils seront bien plus efficaces. Jésus ne pouvait pas aller jusqu'aux extrémités de la terre pour parler à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples et à toutes les nations. Lui ne pouvait pas le faire quand il était sur terre, mais il peut le faire au travers de ses disciples. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Ses œuvres plus grandes encore, c'est lui qui les accomplit au travers de nous, par la puissance de son esprit, par la puissance de son esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Je crois donc que ses œuvres plus grandes encore ne sont pas les miracles que Jésus a faits, mais nous parlons ici du salut. Est-ce que nous pouvons imaginer, dans la perspective de l'éternité, quelque chose de plus grand que le salut d'une personne? D'une personne qui autrement est perdue pour l'éternité. Y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? Qu'y a-t-il de plus grand que de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière? Qu'y a-t-il de plus grand que de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Tout cela a été rendu possible par l'œuvre parfaite du Christ et par le don de son esprit. Ici, il aurait fallu parler des dons spirituels, des ministères pour le service, mais c'est bien trop copieux et on avance. Et on arrive enfin à la quatrième réponse qui est courte. En quoi la venue de l'Esprit est-elle avantageuse pour les disciples? Car par l'Esprit nous sommes vainqueurs. Nous pouvons vaincre la chair, c'est-à-dire notre nature pécheresse, que nous avons héritée d'Adam par notre naissance, et qui reste en nous, même après la conversion. Avec l'Esprit de Dieu en nous, la donne change radicalement. Tant et si bien que l'apôtre Paul écrit aux Galates, « Je dis plutôt marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. » Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Marcher par l'Esprit, ça veut dire tout simplement obéir à Dieu, obéir à sa parole, obéir à son enseignement. suivre les incitations, les directives de l'esprit en moi. Et ainsi, je peux résister au désir de la nature pécheresse qui, en moi, cherche toujours à m'attirer loin de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans ce même chapitre, va parler des œuvres de la chair. Ça ne nous est que trop familier. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Voulons-nous ne pas faire ces choses dans notre vie ? Voulons-nous pouvoir résister aux désirs de notre chair, de notre nature qui a été abîmée par le péché et qui aime le péché ? La seule solution, si je comprends bien la Bible, est de marcher par l'Esprit que Dieu a mis en nous, en choisissant non pas de faire les œuvres de la chair, mais de vivre de son fruit, de ce qu'il produit en nous. Et à la suite du texte sur les œuvres de la chair, vous le savez, il est question du fruit de l'Esprit, qui lui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ouh ! Qu'est-ce qui était le mieux pour les disciples de Jésus ? Qu'ils restent physiquement avec eux ? Vous m'auriez demandé ça il y a quelques jours, j'aurais peut-être dit oui, comme ça, spontanément. Ou alors qu'il s'en aille et qu'il leur envoie l'Esprit-Saint. Vous l'avez compris, c'est la deuxième option, et de loin. Parce que par l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la présence de Jésus en permanence et pour l'éternité. Ça fait peut-être regarder à la vie chrétienne un peu autrement. Par l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes transformés. Transformés jusqu'au jour où nous serons semblables à lui. Par l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes équipés. Équipés pour vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Et par l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes vainqueurs, nous pouvons être vainqueurs, plus que vainqueurs, si nous marchons par l'Esprit. Oui, il était vraiment avantageux pour nous que Jésus quitte physiquement cette terre. Amen.